Études sur Cantique. Olivier et l'autre Laurent.
Je te connais, oh Jésus. Te connais. Il n'est rien de meilleur. Toi, mon Dieu, mon seul bien, ma vraie joie et ma justice. Oh Seigneur, je t'aime.
Bien-aimé en Christ, shalom, shalom à vous. Après une semaine de séparation, nous sommes encore en communion avec vous par la grâce de Dieu. Bien-aimé, vous avez l'habitude de prêter attention aux paroles de Cantique. Alors, cet après-midi, vous serez servi à l'heure de cette émission. Vous comprenez bien l'anglais. Je vous invite à écouter attentivement le Cantique qui suit.
To the city of the saints, where the Lord with opened arms will say, welcome home. Where all tears are wiped away and our sorrows are all gone. When I die, I would fly, fly away. Ashamed his word to proclaim. We will walk on the streets of gold, his face and glory to behold. When I die, I will fly, fly away. If my sins were washed in the blood to carry the cross, I was never glad. If I was never ashamed his word to proclaim, we will walk on the streets of gold, his face and glory to behold. When I die, I would fly, fly away. There are many mansions. For if this earthly tabernacle be dissolved, we have a home in heaven. A house not built with hands, with God eternal forever and ever. There lies a father, a pastor, an uncle, a comrade, whose testimony and tribute indicates
how he invested his life, his talent, resources, gifts into the kingdom of God can so be told of you, considering the daily decisions we make all our lives. F holds no treasure.
Titre du cantique à étudier cet après-midi. Il est constitué d'un refrain de deux strophes et entre les deux couplets, nous retrouvons des paroles tirées des Saintes Écritures qui ont été proclamées par le bien-aimé frère. Mais avant d'en arriver là, et avec votre permission, nous allons demander à l'autre Laurent qui est avec nous dans ce studio. D'abord, bonjour l'autre Laurent.
Bonjour Olivier.
Avant d'en arriver aux paroles proclamées par le bien-aimé frère, nous aurons bien voulu connaître les paroles du cantique que nous allons ensemble étudier au travers des Saintes Écritures par ton intermédiaire.
D'accord, je commence avec le couplet, le premier et deuxième couplet, puis je vais remonter pour lire le refrain. Premier couplet, « If my sins were washed in the blood to carry a cross, I was ever glad if I was never ashamed his word to proclaim. We will walk on the streets of gold, his face and glory to behold. When I die, I will fly away. » Deuxième couplet, I will fly away. Oh glory, I will fly away when I die. Hallelujah, by and by, I will fly away. Should you die, would you gladly say with all the saints, I will fly away. Le refrain dit ceci, when I die, I will fly to the city of the saints, when the Lord will open arms, will say, welcome home, where our tears are wiped away and our sorrows are all gone. When I died, I will fly away. En français, nous avons ceci au premier couplet. Si mes péchés sont lavés dans le sang, si j'ai joyeusement porté la croix, si je n'ai jamais eu honte de prêcher sa parole, nous marcherons dans des rues pavées d'or, nous contemplerons sa face et sa gloire. Quand je mourrai, je m'envolerai. Deuxième couplet, je m'envolerai aux gloires, je m'envolerai quand je mourrai, alléluia, je m'envolerai coûte que coûte vers la cité des saints. Diras-tu joyeusement avec tous les saints que si tu mourais, tu t'envolerais. Le refrain dit ceci, quand je mourrai, je m'envolerai vers la cité des saints, où le Seigneur m'accueillera en disant, bienvenue à la maison, là où nos larmes seront essuyées et nos douleurs disparaîtront. Quand je mourrai, je m'envolerai.
Of the saints, where the Lord with opened arms will say, welcome home, where all tears are wiped away and our sorrows are all gone. When I die, I would fly, fly away.
Nous allons entamer le commentaire de cette chanson, mais bien avant cela, j'aurais bien voulu te poser la question suivante. When I Die est le titre de la chanson. Est-ce que le titre de ce cantique-là t'effraie, When I Die? Parce que ça revient souvent dans le chant. Ça, c'est pas effrayant là?
Non, personnellement.
Oui, pourquoi?
D'abord, il faut comprendre que la mort est une réalité. Et l'Écriture dit, dans l'Ecclésiaste chapitre 3, au verset 1,
oui.
Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Deuxième verset, un temps pour naître et un temps pour mourir. Donc là, c'est... Il y a eu un temps où j'étais né.
Oui.
Donc c'est normal que un temps arrive où je meurs.
Oui.
D'accord?
Oui.
Ça c'est le coup normal des choses. Pour moi personnellement, autant que faire se peut, je fais preuve de prudence et je laisse le reste au Seigneur. C'est-à-dire que quoi? Que je ne vais pas m'exposer inutilement au danger.
C'est ça.
Et je vis la vie que je devrais vivre. Et le Seigneur s'occupe des aspects que je ne maîtrise pas. Et je suis aussi conscient de la promesse que le Seigneur m'a faite personnellement. Promesse assortie d'un avertissement. Et donc, c'est à moi qu'il a dit. Et donc, en écoutant ça... Si je parle de peur ou de crainte, ce sera peut-être sous un autre angle. Pourquoi? En tant que chrétien, disciple de Christ, nous savons que notre tête est mise à prix par la puissance des ténèbres.
D'accord, mise à prix par les puissances des ténèbres.
Pourquoi? Parce que nous avons choisi de nous identifier au Seigneur Jésus-Christ
pour proclamer sa parole, pour mettre en déroute les hordes d'anges déchus et pour ruiner les projets des agents humains et des puissances des ténèbres. Donc, nous sommes conscients que nous sommes en guerre. La vie chrétienne, ce n'est pas un jeu. Et le combat est réel, les blessures sont réelles, les coups sont réels. Et si cela avait été possible, les puissants des ténèbres feraient disparaître de dessous les cieux tous ceux qui sont de véritables chrétiens. Feraient disparaître l'Église. Ruinerait la vie des saints. Mais ce n'est pas possible. Donc, je dis ces choses parce que pour moi, ma crainte est ailleurs. C'est pas par rapport à la mort. Ma crainte ailleurs parce que l'Écriture dit qu'avec toutes les promesses que Dieu nous a faites, nous devons nous purifier de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. C'est-à-dire que s'il y a une peur que je dois avoir, c'est de ne pas être trouvé prêt. C'est ça la peur du chrétien. D'accord ? Que ce soit par l'enlèvement ou par la mort, ce qui fera peur aux chrétiens, c'est de n'avoir pas été trouvé prêt en l'état quand ça va survenir. Un dernier verset peut-être, 1 Pierre chapitre 1, partie de verset 15, où il dit « Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. » Et ce verset-là nous a été donné par l'apôtre Pierre. Et donc, ce n'est pas une question de « je suis dans telle dénomination, dans telle église ou autre », c'est une question d'application de ce verset à ma vie. Et il dit « dans toute votre conduite », ça veut dire tous les domaines de notre vie doivent faire l'objet d'une œuvre que la Bible appelle l'œuvre de la sanctification. Selon qu'il est écrit « vous serez saints car je suis saint ». Alors maintenant, l'apôtre de nous dire, sur la base de ce qu'il vient de dire, et si vous invoquez comme père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Donc c'est là où se trouve ma crainte. Je dois veiller à me conduire avec crainte, à veiller sur ma marche avec Dieu, pour que rien ne vienne entacher cette communion à laquelle il m'a appelé, pour que ce soit par la mort ou par l'enlèvement que je sois trouvé dans un état de pureté. Voilà.
Très bien, c'est compris et c'est noté. La crainte, ce n'est pas par rapport à la mort qui va survenir.
Non.
La mort qui est une chose naturelle, mais la crainte, c'est par rapport à ce que tu sois trouvé prêt.
La qualité de vie. La qualité de vie selon Dieu, c'est une vie sainte.
Voilà.
Ni plus, ni moins.
Très bien. Nous allons dès à présent entamer le commentaire de la chanson étape par étape. Et nous allons commencer avec le refrain que je vous laisse écoutez avec la chorale.
Of the saints, where the Lord with opened arms will say, welcome home, where all tears are wiped away and our sorrows are all gone. When I die, I would fly away.
Quand je mourrai, je m'envolerai vers la cité des saints, où le Seigneur m'accueillera en disant « Bienvenue à la maison ». Là, nos larmes seront essuyées et nos douleurs disparaîtront. Quand je mourrai, je m'envolerai. Chose intéressante dans cette partie de la chanson, le compositeur positive sa mort avec la manière. Hein, il parle d'une vie après la mort. Faut-il comprendre, l'autre Laurent, que la vie ne s'arrête pas ici-bas? Souvent, les gens disent qu'avec la mort, c'est fini, quoi. Tout est fini. Il n'y a plus de vie après la mort. Est-ce que ce que l'auteur est en train de dire, il nous envoie un message qui nous dit qu'il y a une vie après la mort? Est-ce vrai?
Ah oui, bien sûr. La mort, c'est quoi? C'est la cessation de la vie physique. C'est-à-dire que le corps, l'organisme ne fonctionne plus. D'accord? C'est ce que nous appelons la mort. Et l'écriture a beaucoup à nous enseigner sur cette question. L'Ecclésiaste, je l'ai lu tantôt, un autre passage de l'Ecclésiaste, chapitre 12, verset 5, dit, il parlait de lui, il a perçu la chose sous l'angle de la vieillesse, c'est-à-dire que la personne a vécu, elle maintenant devient vieille, vieux, oui. Et il a pris de l'âge, son corps ne fonctionne plus comme avant, et il sent le poids de l'âge, jusqu'au dernier moment. Là, dans l'Ecclésiaste chapitre 12, verset 5, il dit que l'homme s'en va vers sa demeure éternelle. Sa demeure éternelle. Donc là, il est en train de nous dire, lorsque le corps cessera de fonctionner, la partie immatérielle de l'homme va continuer de fonctionner. Et donc c'est une transition, il s'en va vers sa demeure éternelle. Et de l'autre côté de la vie, quand le corps devient inerte, et les pleureurs parcourent les rues. C'est ce qui se passe souvent lorsque quelqu'un décède. Celui qui décède, lui, ne vous dit plus rien, son corps est inerte. Mais ceux qui sont vivants commencent à pleurer. D'accord? C'est ce qu'il est en train de décrire. Et il dit dans le verset 7, avant que la poussière retourne à la terre. C'est-à-dire, il parle de la décomposition, de la putréfaction du corps qui va retourner à la poussière. C'est la partie matérielle, ça. D'accord? Comme elle y était, parce qu'avant qu'Adam ne soit créé, c'est de la poussière que Dieu a malaxé. Il a pris la poussière, malaxé avec certainement de l'eau et autres, avant d'insuffler en lui. Et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. L'esprit, c'est le souffle qui anime l'âme. D'accord? L'esprit, c'est le souffle qui anime l'âme. Et quand vous lisez les Écritures, les auteurs des Saintes Écritures avaient une connaissance partielle. Et tout comme Dieu se révélait de façon progressive dans les Écritures, chacun avec une portion de connaissance des faits spirituels. Et maintenant, quelqu'un peut se demander, mais alors donc ici, il a parlé de l'esprit qui retourne à Dieu qui l'a donné. Et l'âme, alors, où est l'âme? L'âme, c'est quoi? L'âme, c'est le siège des émotions, de la volonté, des pensées, des sentiments. D'accord? Et maintenant, dans le Nouveau Testament, c'est le Seigneur Jésus qui nous donnera d'avoir une idée de ce qui se passe. Ça y est, il y a plus de précision par rapport à un corps inerte. Oui, il y a eu le cas de Lazare et de riche. Lazare était décédé, le riche aussi était décédé. Ça veut dire que il y a eu un temps où le riche était né, Lazare était né, le riche est mort, Lazare est mort. Ça là, c'est le propre de tous les hommes. Maintenant, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté de la vie? Le riche n'a pas vécu pour Dieu, non pas parce qu'il était riche, mais parce qu'il faisait aucun cas de Dieu. Luc chapitre 16, verset 24, il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau, et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. D'accord? Je souffre cruellement dans cette flamme. Là, c'est son âme, ça. Parce que c'est le ciel des émotions, de la volonté, des pensées, des sentiments. Comment il a fait pour reconnaître Abraham? Il a reconnu Abraham parce que dans le monde de l'esprit, tout devient clair d'un seul coup.
D'accord.
D'accord?
Oui.
Bien, donc là, ici, il a clairement dit, voilà ma situation. Et il a reconnu Lazare aussi de l'autre côté.
Il s'est rappelé de Lazare.
Voilà. Non seulement ça, il s'est rappelé aussi de son passé. Car il a dit dans le verset 28, car j'ai 5 frères. Il a voulu que Lazare aille attester de la réalité de ce dont il est en train de souffrir actuellement. Ce qu'il vivait comme réalité. Afin qu'il ne vienne pas aussi dans ce lieu de tourment. D'accord? Et ici, il ne parle pas de Gehinnom, cette partie de la décharge publique hors de la ville de Jérusalem, hein, que le Seigneur avait utilisé comme illustration pour parler de cette réalité-là. Parce que c'est à ce niveau-là que les témoins de Jéhovah sont confus. Parce qu'ils comprennent pas. Et là, ils vont aller jusqu'à dire, oui, quand quelqu'un meurt sans Christ, autre, là, il y a l'annihilation. Ça veut dire qu'il cesse d'exister. Personne ne cesse d'exister. Parce que la partie immatérielle en l'homme est éternelle. Donc, ça ne peut pas cesser d'exister. Maintenant, quand on analyse les faits de Dieu dans les Saintes Écritures, Ancien Testament, il est clair que Dieu venait de quelque part. Quand tu prends le cas de Adam et Ève, par exemple, Dieu venait les visiter, n'est-ce pas?
Oui.
Mais s'il vient visiter, ça veut dire qu'il habitait quelque part. Il venait de quelque part. Malheureusement, pour Adam, le processus de sa création n'a pas abouti avant sa chute. Sinon, il aurait eu l'opportunité aussi d'aller vers le lieu d'où Dieu venait souvent vers eux. Mais là, quand on prend le cas d'Abraham, dans sa communion avec Dieu, il y a des moments où l'Écriture dit que quand Dieu a fini de lui parler, il s'est élevé au-dessus de lui. Ça veut dire que Dieu habitait quelque part. Et dans Hébreux chapitre 11, le verset 10, il nous a dit car Abraham attendait la cité qui a de solides fondements. Celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Donc, on voit dans les Écritures que Dieu réside quelque part. Et que ceux qui le servent, le suivent, iront résider avec lui. Et pourquoi? Mais à côté de ça aussi, il y a ceux qui, tout en se disant croyants, n'avaient pas d'aperçu des réalités spirituelles. Quand vous prenez un roi comme Ézéchias, par exemple, le roi Ézéchias, l'Écriture dit qu'il avait marché avec Dieu, n'est-ce pas?
Oui.
Et puis à un moment donné, il était tombé malade. Et ça, nous, beaucoup de pasteurs ont prêché sur ce test. Nous aussi, on a prêché ce test. Mais il y a un élément dans le test qui doit attirer notre attention. C'est qu'au-delà de toutes ces activités religieuses, il n'avait pas personnellement de cette communion-là, quelque chose qu'Abraham avait, au point où Abraham avait vu la venue du Christ. D'accord? Quand le prophète est venu dire à Ézéchias qu'il allait mourir, quelle a été sa réaction?
Il a pleuré, hein.
Pourquoi il a pleuré? Dans Ézéchias 38, Ésaïe plutôt, 38, verset 10, il dit, je disais, quand mes jours sont en repos, je dois m'en aller aux portes du séjour des morts. Je suis privé du reste de mes années. En d'autres termes, mort prématurée. D'accord? Parce que pour lui, il n'était pas, c'est pas le moment de mourir. Maintenant, il dit, et je disais, je ne verrai plus l'Éternel. L'Éternel sur la terre des vivants. Je ne verrai plus aucun homme parmi les habitants du monde. Tu vois que sa vie est arrimée sur la réalité du monde physique. Dieu te dit, tu vas mourir, tu viendras vers moi. Lui dit, non, je ne te verrai plus sur la terre des vivants. Ça veut dire que sa relation avec Dieu s'arrêtait seulement sur la terre des vivants. Alors qu'à la croix, Jésus avait dit à ce brigand repenti, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Ça veut dire que c'est un lieu qui existe et on ne peut pas accéder à ce lieu avec le corps physique, la chair et le sang. Et donc là, c'est tout à fait clair pour quelqu'un qui lit les Écritures, qui comprend. Le livre de l'Apocalypse nous révèle les réalités de la vie dans l'éternité. Hein. Plusieurs passages nous montrent ce qui se passe au-delà de notre monde physique. Dernier passage, Philippiens 1, verset 23, l'apôtre Paul dit, je suis pressé de deux côtés. Hein, je suis dans un dilemme. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. N'oublie pas, le Seigneur a dit aux brigands, tu seras avec moi dans le paradis. Et Paul dit, je suis pressé de deux côtés, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. Ce qui, de beaucoup, est le meilleur, parce que ça le désir de tous les enfants de Dieu, être auprès du Seigneur. Mais, à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. En d'autres termes, je préférerais encore passer quelques années avec vous, prêchant la parole, vous instruisant dans la voie de Dieu, vous enseignant la parole de Dieu, jusqu'à ce que le temps arrive que je m'en aille. Donc là, dans tout ce que je viens de dire, ce que nous retenons, c'est qu'il y a une vie derrière cette vie-là. Ce que nous avons ici, c'est l'existence. De l'autre côté, est la vie véritable.
Très bien. Toujours dans le refrain, l'auteur nous révèle en partie ce que nous allons vivre, je crois. Et c'est ce qu'il a dit, qu'il a dit des choses dans cette partie du refrain. Il a parlé de séchage de larmes, je peux mettre
ok, des ici. Larmes qui sont séchées,
oui,
essuyées plutôt.
De la cessation de douleur.
Oui.
Et il a dit, bien avant tout cela, il a dit, je m'envolerai vers la cité.
Des saints,
oui. Il a bien dit la cité.
Des saints, pas des cités des pécheurs, des impies.
Ah, d'accord.
Mm-hmm.
Ok, mm-hmm. Voilà. Que faut-il en penser?
Là, à ce niveau, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas quelque chose de nébuleux. C'est plus réel que notre vie de ce côté. C'est-à-dire, si vous n'avez jamais fait une expérience avec le Seigneur, vous allez penser que parce que je touche le matériel, ce monde est plus réel. Non, le monde spirituel est plus réel, est plus tangible que le monde, ce monde-ci. D'accord? Et ici, dans ce qu'il est en train de dire, c'est que il est sûr que quand il va mourir, le Seigneur lui-même l'accueillera et lui dira bienvenue à la maison. Pourquoi? Dans l'histoire dans le récit que le Seigneur nous a présenté pour nous parler des réalités du monde spirituel. Tout à l'heure, nous avons parlé du riche qui souffrait dans les flammes, n'est-ce pas?
Oui,
mm-hmm.
Oui.
Et il sait que cette souffrance ne prendra jamais fin. Oui. Alors, maintenant, on prend le cas de Lazare. Là, quand il était décédé, Luc chapitre 16, verset 22, le pauvre mourut et il fut porté par des anges dans le sein d'Abraham. Ça veut dire que quand un saint meurt, il est escorté par les anges directement jusque là où Dieu se trouve. Pourquoi? Parce que le monde spirituel, c'est un univers assez vaste. Alors, vous pouvez pas juste vous promener comme ça, là. C'est pas comme on fait, d'où viens-tu? Non, je fais une promenade de santé, comme Satan a dit à Dieu. Oui, parce que c'est un ange déchu qui n'est plus sous le contrôle de Dieu, donc il pouvait se promener comme ça. Dans le ciel, aucun ange ne peut se lever de lui-même comme ça, décider, ok, ce matin, j'ai choisi d'aller. Non. Tous les anges de Dieu sont sous les ordres de Christ. C'est ce que Christ leur dit qu'ils font. Alors, donc ici, nous voyons que Lazare a été escorté par les anges. Ça, c'est un, deux. Maintenant, quand on est escorté par les anges pour aller vers le Seigneur, n'est-ce pas?
Oui.
Et là, dans Actes chapitre 7, verset 55 et 56, là, il est dit, « Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. » Et il dit, « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Pourquoi il est debout? Il est debout pour accueillir l'un des tout premiers saints d'après son ascension au ciel. Il devait accueillir
Étienne.
Ouais. Donc, il s'est mis debout. Et donc, dans la chanson, il nous est dit que le Seigneur nous accueillera les bras tendus. Là, c'est ce qu'il dit. « Where the Lord with open arms will say, welcome home. » Donc, le Seigneur accueille les bras tendus. Souvent, quand les gens viennent nous visiter, quelqu'un qu'on attendait depuis, on se lève d'un seul coup et on va vers la personne, les bras tendus, comme pour l'accueillir, d'accord? Et donc là, sous l'escorte angélique, accueilli par le Seigneur, autre chose, présenté au Père. Là, le Seigneur nous présentera à son Père. Voilà ceux qui ont cru en moi, qui ont accepté toutes les souffrances pour moi. Et donc, je te les présente. Moi et les enfants que le Père m'a donné, je te les présente. Là, dans Éphésiens chapitre 5, là, nous prenons l'ensemble des saints comme étant l'épouse de Christ. Où il a dit, verset 25, « Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. » Quel est l'objectif? Pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sainte, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Et ça s'applique à chaque chrétien. Ça veut dire qu'à la fin de notre marche avec Dieu, le Seigneur doit être en mesure de nous présenter au Père, étant glorieux, saint, sans tache, ni rien de semblable, pur. C'est pour cela que nous ne cesserons de le dire, vous ne pouvez pas prétendre aller au ciel si vous ne vivez pas dans la sainteté. Vous ne marchez pas dans la sainteté. Donc là, présenté au Père, ensuite, il nous fera asseoir sur son trône. Apocalypse chapitre 3, verset 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Donc tu vois, c'est toute une réalité. C'est pas juste là, quelqu'un va aller flotter sur les nuages. Non, c'est toute une réalité. Après, il y a aussi dans l'Apocalypse des bénédictions pour certaines personnes qui seront présentes dans le temple céleste, le temple de Dieu au ciel. D'accord? Là, Apocalypse 3, verset 12, il dit, celui qui vaincra, je le ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus, j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel et d'auprès de Dieu, et mon nom nouveau, dernier élément sur cet angle, dans la personne qui est née de nouveau, qui a été enlevée, ou bien qui est mort, qui a été escortée au ciel, sera présente, cette personne sera présente dans la nouvelle Jérusalem. Apocalypse 21, verset 3. Et j'ai entendu du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple. Dieu sera lui-même. Lui-même sera avec eux. Le bonus dans tout ça,
oui,
c'est les 1000 ans que nous passerons sur la terre avec Christ. Donc quand vous analysez tout ça là, frère, si malgré tout ça là, tout ce que révèle l'écriture, quelqu'un, malgré qu'il ait lu la Bible, qu'il ait entendu prêcher sur ces choses, venait à rater le ciel. Je ne pense pas que son regret sera supérieur à celui des anges déchus. On ne mérite pas d'aller au ciel. Mais Jésus a tout fait pour qu'on aille au ciel. Et malgré ça, quelqu'un,
ouais,
parce qu'il aime le monde, parce qu'il ne veut pas se départir d'avec le péché, va finir sa course dans les méandres des flammes éternelles. Cette personne va... Moi, je fais tout pour ne pas un jour avoir me promener. Non, je ne veux pas aller dans ce lieu de souffrance-là. C'est pour cela que nous prenons sur nous de veiller sur notre vie pour pouvoir passer l'éternité avec le Seigneur.
Fly to the city of the saints, where the Lord with open arms will say, welcome home, where all tears are wiped away and our sorrows are all gone. When I die, I would fly away. Ashamed, his word to proclaim. We will walk on the street of gold, his face and glory to behold. When I die, I will fly away. If my sins were washed in the blood, to carry the cross I was never glad. If I was never ashamed, his word to proclaim. We will walk on the streets of gold, his face and glory to behold. When I die, I would fly away.
Nous allons dès à présent entamer les paroles de la première strophe. J'ai l'impression, l'autre Laurent, que la vie après la mort a été conditionnée et le compositeur nous rappelle cette condition-là. Alors, quelles est cette condition ou quelles sont ces conditions?
D'accord, là quand on écoute la chanson, là quand l'auteur dit si mes péchés sont lavés dans le sang, si j'ai joyeusement porté la croix, si je n'ai jamais eu honte de prêcher sa parole. Là, vous voyez les conditions. Et ça commence par l'être, notre état. Hein? Mes péchés sont lavés dans le sang. Dans le sang de l'agneau, bien entendu. D'accord?
Laver une fois dans le sang.
Laver à la conversion. Oui, et la conversion, maintenant, dans notre marche avec lui, chaque fois que nous faillissons dans notre marche, il faut se repentir. Hein. Et quand le péché vient, il faut se repentir, s'en débarrasser pour ne plus revenir à ça. D'accord? Et bien, donc ici, mes péchés sont lavés dans le sang. Pourquoi? Parce que, vous voyez, avant notre conversion, nous avions une vie. Et cette vie-là faisait de nous des gens qui, normalement, devaient pécher. Parce que l'ancienne création, c'est la création de l'homme déchu. D'accord? C'est pour cela que Paul dira, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Ça veut dire, il y a une nouvelle création et il y a une ancienne création. En dehors de Christ, il n'y a que l'ancienne création. Et l'ancienne création, là, a ce que la Bible appelle les œuvres de la chair. Quand Adam est tombé, il a entraîné toute l'humanité avec lui. Donc, quiconque a l'ADN d'Adam en lui est un pécheur naturellement. On ne peut pas s'empêcher de pécher. Il est enclin au péché. Alors donc, là, si je prends les Écritures, là, l'apôtre Paul a parlé aux Corinthiens en leur disant, certains d'entre vous, vous étiez des impudiques, des idolâtres, des adultères, vous étiez des efféminés. D'accord? Il a cité ce qu'ils étaient avant. Ça, c'est le passé. D'accord? Ce qu'ils étaient avant. Et ensuite, ce qui m'intéresse, c'est que dans le verset 11 de 1 Corinthiens chapitre 6, il dit ceci. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Ça veut dire que le péché qu'il a cité ne s'appliquait pas à tout le monde. Parce que, vous savez, les gens ont divers types de péchés. Oui. Ils sont experts dans certains domaines. Certains, c'est le vol. D'autres, c'est l'escroquerie. Certains, c'est l'impudicité. Donc, d'une manière ou d'une autre, quelle que soit la nature du péché, quiconque est de la première création, de l'ancienne création, est un pécheur invétéré. Ça, c'est normal. Et donc, il dit, c'est là ce que vous étiez, jusqu'à ce que vous ayez écouté la parole de Dieu, que vous soyez repentis. Et quand cela s'est passé, il dit, mais, vous avez été lavés. Lavés par quoi? Par la potasse? Non. Parce que la Bible dit, même si vous utilisez la nitre, la potasse, vos péchés resteront marqués devant Dieu. Donc, ce n'est pas les ablutions qu'on fait à 6 heures du matin, à 18 heures, ou entre les deux, là, à midi, ou ce n'est pas ce que l'on fait religieusement qui enlève le péché. C'est le sang de l'agneau. C'est pourquoi l'auteur a dit, si mes péchés sont lavés dans le sang. D'accord? Donc, ici, là, il dit, mais vous avez été lavés. Ça c'est un. Mais vous avez été sanctifiés. Il y a des gens malheureusement qui sont de la mouvance pentecôtiste aujourd'hui qui n'aiment pas la sanctification. Ça les dérange parce que c'est une vie conséquente. Quand quelqu'un veut marcher dans la sanctification, il y a des choses à abandonner. De la tête aux pieds, il y a des choses à abandonner. Vous ne pouvez pas vous accoquiner avec le monde et prétendre être dans le royaume de Dieu. Et là, le message devient dur. Et beaucoup n'aiment pas ça. Et donc, ils ne veulent pas. Donc, mais vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Quelle est la finalité? C'est pour que ces gens puissent aller au ciel. Donc, l'auteur est en train de dire ici la condition. Il faut que mes péchés aient été lavés par le sang de l'agneau. Il faut qu'il y ait une conversion. Il faut qu'il y ait une transformation de vie. Et c'est Christ qui le fait. Si je me repens sincèrement, honnêtement de mes péchés. D'accord. Deuxième chose. Si j'ai joyeusement porté la croix, parce que il y a plusieurs types d'appels que le Seigneur nous a fait. Il y a d'abord l'appel à la repentance qui est adressé à l'humanité tout entière, à tous ceux qui sont issus d'Adam. Appel à la repentance. Après cet appel à la repentance, il y a l'appel aux discipulats. Si vous avez accepté que Christ soit votre sauveur, vous devez aussi accepter qu'il soit votre Seigneur. En ce moment, vous vous engagez à vivre uniquement que pour lui et que pour sa parole. Et là, il dit dans Luc chapitre 9, verset 23, puis il dit à tous, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. » Chose bizarre, rare et rarissime en notre temps aujourd'hui. Où on parle de droit, mon droit, mon ceci, mon cela. Mais il dit, vous renoncez à vous-même. Ça c'est un. Qui se charge chaque jour de sa croix? La croix est un instrument de mort.
qu'il accepte que chaque jour, la croix fasse son œuvre en lui, en lui refusant de se laisser aller à la propension de la chair. Tu vois un peu? Et qu'il me suive. Ça veut dire que si quelqu'un refuse de renoncer à lui-même, il ne peut pas suivre Christ. Si quelqu'un renonce à lui-même, mais refuse de se charger de sa croix, le jour là où nous sommes, peut-être aujourd'hui dimanche, ce jour-là, il fait face à un défi. Et sa nature déchue, le moi, veut s'exprimer. Et la croix dit non, pas question. Toi là, tu es mort à la croix. Et il refuse à l'esprit de le conduire et se laisse aller par les inclinations de la chair. En ce moment, il ne suit plus Christ. Alors donc, là, la croix, c'est quoi? Cet appel-là, c'est le prix à payer pour continuer à avancer sur le chemin resserré, comme Jésus l'a dit. Il dit, la porte est étroite, le chemin resserré, il y a peu qui les trouvent. Mais là où le chemin est assez vaste, là, il y a plein de gens là-bas, plein de religieux là-bas. Et ceux qui nous prêchent aujourd'hui, nous enseignent aujourd'hui, doivent attirer notre attention sur le fait qu'il y a une porte étroite. Il y a un chemin resserré de bout en bout. Ce n'est pas un entonnoir. Vous commencez le chemin resserré et puis vers la fin, ça s'ouvre. C'est de bout en bout. Du début jusqu'à la fin, le chemin est resserré. Donc là, troisième condition qui s'est proposé, auquel il a souscrit, c'est... condition à laquelle, bien entendu, oui. Je n'ai jamais eu honte de prêcher sa parole.
Oui.
Pourquoi?
Oui.
Parce que dans Marc chapitre 8, Jésus a dit, quiconque aura honte de moi et de mes paroles, au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Oui. C'est pour cela que l'apôtre Paul dira, quand bien même il n'était pas là quand Jésus avait dit ça, l'apôtre Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif comme du grec. Oui. D'accord? Quand on prêche le vrai évangile, ça apporte le salut. Quand on prêche le faux évangile, ça apporte l'illusion du salut. La personne croit être sauvée, mais elle sait. Elle n'a aucune conviction venant de l'esprit que ses péchés ont été pardonnés, qu'il n'y a plus de condamnation pour elle, et que dans l'état où il est, si la personne venait à mourir, pourrait voir Dieu. D'accord?
Oui.
Paul va dire à Timothée, n'aie pas honte de l'évangile, n'aie pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur Jésus. Frère, sœur, si pour une raison ou pour une autre, le milieu dans lequel vous évoluez, vous ne pouvez pas faire savoir aux gens qui sont autour de vous que vous êtes chrétien, vous voyez un peu, votre situation est dangereuse. Hein? Si vous avez honte, pour les besoins de la vie sociale, de savoir vivre, savoir être. Ah, il faut pas leur dire ça, donc oui, je suis chrétien dans mon coin. Non. Quand on est chrétien, on s'affiche comme chrétien. On dit à qui veut l'entendre qu'on est chrétien. Et quand quelqu'un veut venir vers vous pour vous inciter à la compromission, la personne réfléchira par mille fois. Parce qu'il sait que, cette dame-là, elle fera pas ça. Ce monsieur-là, faut pas aller vers lui avec la suffaction, il va vous rejeter. Pourquoi? Parce que c'est un chrétien. Mais quand on se cache, eh bien, vous allez faire route avec les autres. Hein. Vous savez que la silure est l'un des rares poissons à nager à contre-courant. C'est ça la vie du chrétien. Quand le monde va dans un sens, nous là, on dit non. On suit Christ, on va dans l'autre sens. Et là, ben, vous n'aurez pas la coudée franche. Les gens vont vous coincer par ici, par là. Mais vous voulez avancer parce que vous savez sur quel chemin vous êtes. C'est un chemin resserré. Et vous voulez glorifier Dieu par votre vie.
Très bien. Et on va finir avec cette partie. Il est dit quelque part vers la fin. Et nous marcherons dans des rues pavées d'or. Nous contemplerons sa face et sa gloire. Et quand je mourrai, je m'envolerai. Nous marcherons dans des rues pavées d'or.
Oh, oui, bien sûr. C'est une réalité. C'est vrai que la seule comparaison qu'on peut émettre, c'est que l'or ici, c'est une matière très précieuse. D'accord? Une pierre précieuse. Donc, quand on voit de l'autre côté, c'est réel. Les rues telles qu'elles sont, c'est vraiment magnifique. Et ça brille tellement. Quand tu baisses la tête comme ça, tu vois ton reflet. Donc, ce qu'il y a de l'autre côté...
est meilleur.
Il n'y a rien ici. Il n'y a rien ici qu'on puisse comparer à quoi que ce soit au ciel. Il n'y a rien ici.
Très bien.
Et donc, pour ça, il faut tout faire.
Pour aller de l'autre côté. Très bien. Entre-temps, entre les deux
strophe avant d'arriver au second couplet. Le frère a eu à prononcer des paroles. Je voudrais qu'on revienne rapidement sur ces paroles-là savoir ce qu'il a dit d'abord et comprendre par la suite ce qui a été communiqué.
Oui, oui, mais il disait quelque part Earth holds no treasure. In my father's house there are many mansions. For if this earthly tabernacle be dissolved, we have a home in heaven, a house not built with hands, with God eternal forever and ever. Then, if then as a father, a pastor, an uncle, a comrade whose testimonies and tribute indicate how he invested his life, his talent, his resources, his gifts into the kingdom of God, can so be told of you, considering the daily decisions you make on we make on our lives. Earth holds no treasure. En fait, ce qu'il est en train de dire, c'est que il nous fait comprendre que nous ne devons pas amasser des trésors sur la terre. Que dans la maison du Père céleste, il y a plusieurs demeures. Donc, il cite Jean chapitre 14.
Oui,
d'accord. Ensuite, il a parlé de tabernacle. En réalité, il citait 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 1 qui dit, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Donc c'est de cela qu'il est question. Et ensuite il a parlé de, il a dit, si par exemple un homme, on prend un homme qui dans sa position de père, de pasteur, d'oncle, de camarade, de frère, a laissé un témoignage, d'accord? En ce que il a investi sa vie, son talent, ses ressources, ses dons dans le royaume de Dieu. Est-ce qu'on pourra dire la même chose à notre sujet en considérant les décisions que nous prenons au jour le jour? Tu vois? Et il revient en nous disant, n'amassez pas de trésors sur la terre. En d'autres termes, il est juste en train de nous dire que le vrai investisseur fait des placements dont le retour sur investissement a une portée éternelle. Car cette personne sait que la véritable vie commence après son existence ici-bas. Ça veut dire que si nous investissons dans du sable ici, et après on se rendra compte que on s'est trompé. D'accord? On a entendu parler de grands royaumes, de... Vous avez entendu parler des richesses de Salomon, non? Des empires, tout ça là. Aujourd'hui, ils sont où? Ils sont devenus la proie de la poussière. C'est les archéologues qui font des fouilles. Et mais ces bâtiments qui étaient debout avant ont disparu avec le temps. Donc vous voyez que tout ce qui est physique, visible, est éphémère. Mais ce qui est invisible est éternel. Et c'est dans ce domaine-là qu'il faut investir nos ressources, notre vie, notre talent, nos dons.
Voilà. Et il enchaîne en même temps avec la deuxième strophe. Et même dans cette strophe-là, il réitère qu'il va aller au ciel, qu'il s'envolera vers le ciel. Mm-hmm. Il réitère cela. Quel est le fondement de cette assurance?
Oh, l'assurance, là, l'Écriture est là pour nous conforter. Dans Romains chapitre 8, verset 1, il dit, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont, Jésus-Christ.
Donc, il est certain, il a cette conviction.
Oui. Pourquoi? L'Esprit rend témoignage à ceux qui sont en Jésus-Christ, qui sont enfants de Dieu. C'est un témoignage personnel et individuel. Frère, le jour où tu perds ce témoignage-là,
C'est grave.
C'est vraiment grave.
C'est sérieusement grave.
Oui, bien sûr. Oui, parce qu'on peut perdre le témoignage tout en se livrant aux activités. Évangélisation, on fait ceci, on fait ceci. Ça, c'est l'activité, ça. Mais ce qui fait le fond, c'est notre vie. La qualité de vie, enfant de Dieu, enfant de lumière, fils de Dieu, fille de Dieu, c'est ce qui importe. Si vous laissez contrôler, manipuler par ce monde, l'apôtre Paul a été, on ne peut plus clair.
D'accord.
Oui. Quand il disait aux Romains, ne vous laissez pas formater par ce siècle présent, parce que ce siècle présent est sous le jugement de Dieu. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. L'intelligence dont il est question, c'est pas l'intelligence dans le crâne, tout ça, non. Ça veut dire la perception que vous avez maintenant des réalités de Dieu. Et là, cette assurance dont nous sommes en train de parler ici, elle est inébranlable si vous êtes vraiment enfant de Dieu. C'est pourquoi Paul a dit dans Romains chapitre 8, verset 38, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, oui. ni les anges, oui. ni les dominations, mm-hmm. ni les choses présentes, mm-hmm. ni les choses à venir, mm-hmm. ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est ça ce qui fait notre conviction. C'est pour cela que nous choisissons d'aller dans le sens contraire à ce que ce monde propose, même si cela nous attire des si on prend des coups, si on est persécuté, si on n'est pas compris, si on est vilipendé, on sait où on va. D'accord, on est sur le chemin resserré. Frères et sœurs, ne permettez à aucune créature ou à quoi que ce soit existant dans l'ancienne création de vous séparer de l'amour de Dieu. Nous avons la responsabilité, chacun pour sa part, de mener une vie qui honore Dieu, une vie pure, une vie sainte. Et si le Seigneur tarde à venir, si on devait laisser tomber ce corps ici-bas, on s'envolera vers la maison du Père. Mais si la trompette sonnait, on ira ensemble.
Amen. Merci l'autre Laurent, merci également à vous qui nous avez suivis ici à Lomé ou ailleurs de par le monde entier. When I Die était le cantique qu'on a étudié dans ce nouveau numéro de Études sur Cantique. Et on va vous laisser avec la chanson When I Die, interprétée par la chorale. On se dit à dimanche prochain. Bye bye.
I will fly to the city of the saints, where the Lord with opened arms will say, welcome home. Where all tears are wiped away and our sorrows are all gone. When I die, I would fly, fly away. In the blood to carry the cross, I was ever glad. If I was never ashamed, His word to proclaim. We will walk on the street of gold, His face and glory to behold. When I die, I will fly, fly away. If my sins were washed in the blood to carry the cross, I was never glad. If I was never ashamed, His word to proclaim. We will walk on the streets of gold, His face and glory to behold. When I die, I would fly, fly away. There are many mansions. For if this earthly tabernacle be dissolved, we have
a home in heaven. A house not built with hands, with God eternal forever and ever. There lies a father, a pastor, an uncle, a comrade, whose testimony and tribute indicate how he invested his life, his talent, resources, gifts into the kingdom of God. Can so be told of you, considering the daily decisions we make all our lives. F holds no treasure.
Hallelujah, bye.